et de pouvoir tout à l'heure avoir le temps de nous saluer plus avec un peu plus de temps. Alors, il faut que, voilà, on y arrive. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 8. L'apôtre dit ceci. Pourtant moi-même, dit-il, j'aurai sujet de mettre ma confiance, ma gloire dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Parce que je suis circoncis le huitième jour, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, dit Paul, je suis pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice, légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et ce verset 4, donc du chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle parole remplie de profondeur spirituelle pour nous, qui a été écrite il y a 2000 ans presque et qui nous nourrit encore. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous écoutez les actualités. Et bon, tous les jours, on parle du coronavirus, etc., et du vaccin. Je ne vais pas voilà, revenir là-dessus. Vous brancherez tout à l'heure sur les médias et on en saura un peu la suite. Mais j'ai remarqué depuis déjà pas mal de temps, que toutes les semaines, il y a un nouveau sujet qui arrive. Alors ce sujet, il est surprenant parce qu'il nous parle de scandale, d'accusation, de fraude, de corruption, et en fait, qui touche des gens que nous connaissons par voilà leur talent, hein, peut-être que nous apprécions, hein, que nous avons inspiré, peut-être que on aurait aimé avoir leur photo à la maison, vous savez, au bureau, hein, mais avant quoi, plus maintenant, hein, je sais pas ce qu'on fait, vous savez, il y a des gens qui mettent leur photo avec voilà, avec les gens célèbres avec lesquels ils ont été pris en dehors du selfie, ils ont fait ça bien et puis encadré, et je sais pas ce qu'ils font avec toutes ces images après. À la limite, ils ont envie de dire « je ne les connais pas hein ». Ça soulève des polémiques, ça fait la une des journaux, il y a des révélations chocs, et on assiste à la chute de l'homme. Voilà, alors là c'est un travailleur, le pauvre, hein, c'est un accident de travail. Mais pour eux, c'est pas un accident de travail, c'est, j'allais dire, un accident d'orgueil. Ils sont arrivés à un niveau tellement haut qu'ils ont pensé certainement que plus rien ne pouvait leur arriver et qu'ils pouvaient faire tout et malheureusement n'importe quoi. L'histoire de Paul ressemble un peu à leur histoire. C'est l'histoire d'un homme qui pensait avoir tout gagné. Il était au top. Et puis Paul s'est rendu compte que c'était un homme qui a finalement tout perdu. À force de vouloir gagner, il a perdu. Et puis, dans ce que nous avons entendu, il nous apprend comment un homme qui pensait avoir tout gagné, qui a finalement tout perdu, comment il peut apprendre à gagner. L'histoire de l'apôtre Paul, c'est aussi un peu, j'allais presque dire, notre histoire, quelqu'un qui nous parle aujourd'hui et qui nous apprend beaucoup sur notre manière de vivre et d'être. Lui-même commence en disant qu'il était l'homme au top niveau. Rien ne pouvait l'atteindre. Il était très considéré, il était même craint. Et Paul, dans son histoire, eh bien, il raconte qu'il était lui-même. Hein, il avait sujet de mettre sa gloire dans tout ce qu'il faisait. Un homme révéré, respecté. Et il dit même, si d'autres croient se confier en la chair, moi aussi. J'ai des raisons de dire, je pèse lourd sur la balance. Alors il explique que lui aussi avait son nom qui était inscrit en 10 fois plus gros que n'importe qui en haut de l'affiche. Je ne vais pas vous chanter ça, mais vous connaissez. Hein. circoncis le huitième jour. Voilà un homme qui peut dire « Je suis descendant d'Abraham ». On ne peut pas tous se vanter de ça quand même. Il dit « Je suis de la race d'Israël ». Israël, l'homme que Dieu a choisi, duquel va naître 12 fils qui vont donner 12 problèmes. Non, 12 tribus, hein, avec aussi des problèmes, bien sûr, hein. De la tribu de Benjamin. Alors, la tribu de Benjamin, c'est le fils préféré de Jacob, le second de Rachel, le favori de son père. Et puis, il est hébreu, né d'hébreu. C'est-à-dire que il est juif du côté paternel et maternel. Et quant à la loi, dit-il, il a reçu la meilleure formation. S'il y avait vraiment quelqu'un qui était au top, c'était l'apôtre Paul. Moi, dit-il, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied du meilleur des maîtres, Gamaliel, pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il dira même encore dans le livre des Actes, « Ils me connaissent depuis longtemps, s'ils veulent témoigner, j'ai vécu, moi, en pharisien, peut-être plus que les autres pharisiens, selon le parti le plus rigide de notre religion. » Voilà l'apôtre Paul qui exprime aussi qu'il était, quant à l'évangile, il était, quant à la loi, il était zélé, même persécuteur de l'Église. Et puis, irréprochable. C'était un modèle. Mais voilà que l'homme que l'on veut tous avoir comme ami, l'homme que l'on respectait, l'homme influent, le number one, hein, de son époque, eh bien, l'homme qui s'estimait être au-dessus de tous et de tout, eh bien, il ne l'était pas. Il était, vous savez, comme Adam. Alors, il y a un peu un Adam en chacun d'entre nous, celui qui veut être au-dessus des autres. Celui qui a envie d'avoir un avenir radieux, celui qui surfe sur les problèmes. Tout cela, tout ce qui était important pour Paul, lui qui voulait la première place, le premier prix. Parfois nous aussi on veut cette position, peut-être élevée, oh, peut-être pas de manière ostentatoire, hein, mais dans nos cœurs quand même on veut être reconnu, on veut être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, dans notre domaine. Eh bien voilà qu'avant sa conversion, Paul avait un seul objectif. Et ce seul objectif, c'était être comme Adam, à la place de Dieu, décider tout seul pour lui. Moi d'abord, moi tout seul. Il disait qu'il pouvait, il aurait pu mettre sa confiance en la chair. Peut-être que nous on se dit, mais on n'est pas comme l'apôtre Paul, nous on n'a pas persécuté l'Église. Heureusement. Ou peut-être pas autant, j'en sais rien, je ne connais pas votre vie avant la conversion. Mais Jésus nous dit que le problème est le même, c'est que ce problème vient de notre cœur. Car c'est dedans du cœur que Jésus explique que viennent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, etc. C'est de là que la source existe. Il y a un danger à chaque fois que toi tu es dans un esprit de compétition avec qui que ce soit. Il y a un danger parce que tu veux être avant l'autre. Et donc, quand on veut être avant, on ne considère plus l'autre. Un danger des conflits et des problèmes que cela peut engendrer. Paul était un homme qui était au top niveau. Ce Adam qui veut siéger à la place de Dieu. Et même s'il y a un coût de vivre sans Dieu. Et Paul le sait. Il dit qu'avant, pour lui, tout cela, c'était un gain, quelque chose qu'il pouvait gagner, il voulait investir. Mais mon frère, ma sœur, dans ton cœur, quand c'est comme ça, dans notre cœur, quand il y a cette compétition entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut, il y a tension. Et quand il y a tension, il y a désaccord. Seigneur, je veux aller là. Le Seigneur dit non, choisis ce chemin. Il y a opposition entre notre objectif et l'objectif de Dieu. Et en cela, il y a une lutte en nous. Paul a reconnu cela dans sa vie. Vous savez, il voulait être le... Alors Paul, il était Saul avant sa conversion. Et Saul, c'est le même mot que Saül, le même nom qui veut dire le demander. Il voulait absolument que les gens le reconnaissent et qu'ils le demandent. Voilà un homme qui, qui se considérait comme ayant tout gagné. Et il pensait qu'il avait tout gagné. Comme ces hommes dont nous écoutons, nous entendons, qui sont en haut, insoupçonnables, comme des modèles peut-être pour nous, et nous pensons qu'ils ont tout gagné. Mais on ne peut pas rester en haut longtemps. Ou très haut pendant très longtemps. Il y a un point de chute. Paul, qui pensait avoir tout gagné, finalement a tout perdu. Alors son point de chute, ce n'était pas un scandale qui a été révélé. Son point de chute, c'est Jésus qui l'a provoqué. Alors c'est sur cette route de Damas que Jésus a finalement dit à Paul, il faut que tu revoies ta position, parce que là tu es trop sûr de toi, mon pauvre ami, trop sûr de nous-mêmes. Oui, alors qu'il avait des lettres en sa possession, qui lui donnaient autorité sur des hommes, il avait le droit de vie ou de mort sur les noms qui étaient inscrits sur cette lettre. Tout pouvoir sur les chrétiens. Voilà que Jésus l'arrête. Jésus rabaisse l'orgueil de Paul. Le Fils de Dieu n'est pas seulement venu pour rabaisser l'orgueil des hommes. Il est venu pour nous montrer aussi que lui n'a pas voulu jouer ce jeu dans ce monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bien au contraire, dans la même épître, au chapitre 2, 6, il est dit que Jésus s'est dépouillé. Alors que nous regardons ce qui est en haut, Jésus a regardé ce qui est au niveau de l'humain. Et Paul nous fait comprendre que Jésus ne pouvait pas monter plus haut que ce qu'il était. Parce que Jésus était vraiment, il est vraiment au top. C'est Roy Essien qui dit, il était fils de Dieu. Il ne pouvait pas être plus haut, il ne pouvait pas monter plus haut, parce qu'au-dessus de Jésus, il n'y a personne. Alors il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté d'enlever son manteau qui lui donnait la gloire, l'adoration, le respect, l'amour, l'honneur. Lui qui était servi par des myriades d'anges a accepté de venir revêtir notre pauvre humanité. Il a abandonné ce qu'il y avait de plus haut pour venir dans ce qu'il y avait de plus bas. Et d'ailleurs, Ésaïe le dit très bien. Quand on en a parlé, personne ne nous a cru. Quand on a dit que Dieu allait revenir revêtir notre humanité, bien, à qui cela a-t-il été révélé? Il s'est élevé, dit Ésaïe, devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Comment était Jésus? Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. En d'autres termes, si tu croisais Jésus dans la vie de tous les jours, bon, c'était quelqu'un d'anodin. Il était même méprisé, abandonné des hommes. Il est devenu homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Lui qui a quitté son ciel de gloire a accepté volontairement de tout perdre. Il n'a pas chuté, il s'est rabaissé. Au point qu'un jour, il a dit à ses disciples, je vais vous laver les pieds. Alors j'avais un confrère, un pasteur qui disait, j'ai peut-être déjà dit, nous des fois on a envie de passer un savon à nos frères et sœurs. Mais lui, il a décidé de nous laver les pieds. Hein? En fait, voilà que Paul avait cette ambition de faire monter le Adam qu'il avait en lui, la chair qu'il avait en lui, pour arriver le premier. Et Jésus lui a dit non, c'est à moi de m'abaisser pour servir les hommes. Jésus n'a pas vu cette position élevé comme quelque chose à reconquérir. Mais bien au contraire, il a accepté par le souci des âmes, pour la gloire du Seigneur, pour son Église. À quel point est-ce que nous nous remettons en question? Comment est-ce qu'on considère l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'on considère nos frères et sœurs? La chute pour Paul a été terrible comme toute chute. Mais elle a été bénéfique pour lui. Paul nous dit que nous avons-nous besoin d'avoir les pensées, la pensée qui était en Jésus-Christ? Alors j'aime beaucoup ce verset, parce qu'il veut dire que, voilà la version français courant, comportez-vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Version Darby, qu'il y ait donc en vous, qu'il y ait cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Et j'aime beaucoup Parole Vivante, prenez modèle sur Jésus, ayant en vous la pensée, les sentiments qui l'animaient jadis. Avons-nous envie de monter? Envie d'atteindre les hauteurs? Attention, parce que plus nous montons et plus la chute est dure. Eh oui. Paul, c'était l'homme qui se considérait au top. Et puis, il a vu ça comme une perte. Et puis, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Ce matin, Jacques nous l'a dit, hein. C'est pas parce qu'on est sauvé que c'est bon, quoi. Ah, on a fait quand même le plus gros du boulot, hein. Eh oui, la foi ne peut pas rester seule. Alors, il a appris à gagner Christ. Oui, à gagner Christ. Alors, c'est pas gagner la vie éternelle, parce que la vie éternelle, on l'a quand on se convertit, quand on a la foi. Mais la question, c'est est-ce que tu veux aller plus loin? Ou est-ce que tu te satisfais de la vie que tu as? Ouais, Dieu est là, c'est une bonne option, une assurance vie. Et je continue ma route. Hein? Alors, Paul va comprendre que, finalement, il a cette faim et soif de Dieu, de Christ. Il dit qu'il a des privations, des choses qu'il ne peut plus avoir en prison, parce que c'est une épître qu'il a écrite en prison. Mais il dit, c'est pas grave. Moi, je veux plus. Je veux Christ encore plus. Je veux gagner Christ. C'est l'homme qui a appris à gagner Christ. Alors, Frédéric Godet dit ceci. Gagner Christ, ça ne veut pas dire que Paul, ce n'est pas seulement lors de sa première conversion qu'il a gagné Christ, mais qu'il va considérer à partir de là tout comme une perte. Maintenant aussi, après une longue expérience de sa vie chrétienne, il regarde toute chose que le monde lui offre comme une perte. Il y a un changement profond de sa pensée. Il veut l'excellence de la connaissance. L'expérience de l'apôtre Paul devrait être un principe pour chacun d'entre nous. On devrait vouloir gagner Christ, et gagner Christ, et gagner Christ. Vous savez, c'est comme cette parabole de celui qui a trouvé un trésor dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Nous avons Christ. Est-ce que ça reste encore un trésor pour notre vie? C'est comme cet homme qui a trouvé une perle de grand prix. Il vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle de grand prix. Celui qui trouve ce trésor vend tout ce qu'il a. Il considère tous ses acquis comme absolument secondaires par rapport à ce qu'il a trouvé. Alors, en devenant serviteur de Christ, Paul aurait pu dire, maintenant j'ai la gloire dans les églises. Elles vont m'accueillir. Je vais passer sur YouTube. On m'a dépassé les 100 000 vues. Il y en a qui espèrent 1 million sur un autre sujet. Je ne sais même pas si les églises voulaient inviter Paul, en vérité. Non. C'était même pas un orateur qu'on avait envie d'avoir le dimanche matin. C'est terrible, hein? Un homme de cette envergure, il dira lui-même qu'aucune église n'entra en compte avec moi. Et certains même annonçaient l'évangile par un esprit de compétition, esprit de parti. Il n'y a que l'église de Philippe qui a aidé l'apôtre Paul, qui l'a soutenu. Vous savez, ayant vécu dans les quartiers nord de Marseille, je me suis rendu compte d'une chose. Quand quelqu'un s'approche de Christ, il fait vraiment une découverte absolument extraordinaire. Avant ça, il était craint, selon la vie qu'il menait. Et une fois sa conversion, ben, il est obligé d'être gentil avec tout le monde, par amour. Un des frères que je connaissais m'a dit qu'après sa conversion, quelques semaines après, sa mère l'a insulté. Tu te rends compte, dans le quartier, on nous respectait parce que tu étais quelqu'un de craint. Maintenant que tu t'es converti, regarde, les gens nous considèrent comme moins que rien. Alors lui avait beau expliquer que c'était au contraire un trésor et une valeur que d'être à Christ. Et je pense qu'il y avait quelque part, chez l'apôtre Paul, la même idée. Il était craint, parce que l'Église le craignait. Mais après sa conversion, il était méprisé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, vous savez, l'apôtre Paul a compris une chose en prison, c'est que nous ne devons pas nous plaindre. Des fois, quand il y a des choses que nous avons laissées, ben, laissons-le. Ne nous plaignons pas. Là, j'ai une photo de vous. Ah, j'ai reçu ça ce matin. Parents. Vous connaissez Calimero? Oui, c'est un peu moi, c'est un peu vous, hein. C'est le petit. C'est quoi? C'est un canard? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est un poussin. Merci. Ça n'a pas trop la couleur du poussin. Bon. Vous savez, c'est le petit poussin, pour ceux qui connaissent pas, qui se plaint tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et des fois, il y a des chrétiens, et des fois, dans ma vie, et dans ta vie, peut-être, tu te plains. Il y a des jours où tu te plains. Hein, aujourd'hui, programme, on se plaint. Alors, il y a un article qui disait ceci. Les conseillers familiaux affirment que les cas les plus difficiles à traiter sont les gens qui ne cessent de se plaindre de tout et de rien. Rien ne les satisfait. Même s'ils tiennent à ce que tous les efforts soient faits, les conseillers se sentent alors pris au piège eux-mêmes, incapables de trouver une solution. Une fois que vous êtes catalogué comme quelqu'un qui se plaint de tout, les autres vous fuient comme la peste. N'oubliez pas que votre attitude dans la vie sont le fait de votre choix conscient. On peut choisir de se plaindre, de s'inquiéter. L'apôtre Paul aurait pu dire, puisque j'ai tout perdu. On ne va pas se plaindre de ce bruit. Puisque j'ai tout perdu, regardez tout ce que j'ai perdu. Eh bien, il écrira, ne vous inquiétez de rien. Ah bon? Oui, parce que, en réalité, une fois qu'on a fait cette chute et que Dieu nous a relevés, nous sommes invités à gagner Christ. Et quand on gagne Christ, on ne peut pas mettre son énergie à se plaindre. Il faut choisir. On ne peut pas investir dans « je veux gagner Christ » et investir dans « je veux me plaindre ». C'est usant. Ça ronge notre énergie. Alors, c'est facile à dire, hein, ne vous inquiétez de rien. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude pour chacun. Qui va s'occuper de ci, de la fin du mois, de l'avenir, etc. Les causes de nos inquiétudes ne manquent pas. Vous savez, un jour, c'était un homme qui disait que lorsqu'il était célibataire, il était heureux. Et puis après, il s'est dit, non, je serai plus heureux marié. Alors, il rêvait de se marier. Et puis, il s'est marié, et puis il rêvait d'avoir des enfants, et il a eu des enfants. Aujourd'hui, il est marié et père de famille. De quoi rêve-t-il? D'être célibataire et sans enfants. Eh oui, nous sommes comme ça, parfois. Jamais contents de ce que nous avons, alors que nous avons, mon frère, ma sœur, à gagner Christ dans nos vies. Quelle que soit notre circonstance, notre être charnel se plaint. Il n'est jamais satisfait, il ne le sera jamais. Ceux qui sont en haut rêvent d'une chose, d'aller encore plus haut, et ainsi de suite. Mais gagner Christ, c'est laisser Christ monter en nous. C'est cela. Là où ce n'est plus moi qui veux dominer, mais c'est Christ qui veut dominer en moi. Alors Dieu ignore-t-il nos sujets? Bien sûr que non. Ignore-t-il nos difficultés? Bien sûr que non. Philippiens 4 continue, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par la prière. Et la supplication avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Alors vous savez, moi j'aime bien parce que des fois quand j'ai un souci, je vais voir un tel frère ou un tel frère qui est dans le domaine. Et j'aime quand il me dit, t'inquiète pas. Ça me fait plaisir. Ça veut dire, c'est bon, c'est géré. Hein? Et qu'est-ce que nous dit Dieu? T'inquiète pas. Alors si lui le dit, t'inquiète pas. Ça a quand même du poids, non? Dans nos vies. Voilà que l'apôtre Paul a dû apprendre cela. Vous avez appris, reçu, entendu, et il a été un modèle. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il y a un apprentissage dans l'école de Dieu. Apprendre, cela nécessite du temps. C'est pas du jour au lendemain où on apprend à gagner Christ. C'est pas du jour au lendemain où on apprend à ne plus nous inquiéter, ou à obtenir la sérénité, ou à cultiver la paix. Cela prend du temps. Et puis il dira au verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Voilà un homme qui est déterminé à apprendre ce qu'il a reçu, entendu, et à chercher à le mettre en pratique. Alors il aurait pu en prison se plaindre, dire « Mais moi qui suis un brillant prédicateur, me voilà en prison Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas comme dans Acte 16 ?» Il n'y a pas Silas, c'est dommage, hein, parce qu'il nous a délivrés et il nous délivrera. Mais dans cette épître, on ne voit aucune prière qui va dans ce sens. Hein. Bien au contraire, Paul se dit finalement « Comment je peux gagner Christ ?» Et il a compris. Il a compris qu'il ne pouvait peut-être plus faire le tour des églises, mais vous savez, je bénis Dieu de ce qu'il a envoyé Paul en prison. Ouais, sinon on n'aurait pas tous les épîtres à notre disposition. Et Paul savait qu'il était un instrument entre les mains de Dieu, parce qu'il voulait gagner Christ. Et quand on veut gagner Christ, eh bien, Jésus nous fait gagner. Et Paul n'écrira jamais qu'il était le prisonnier des hommes, mais il dira toujours serviteur et prisonnier de Jésus-Christ. Il avait gagné Christ, on pourrait même dire que Christ avait gagné Paul. Alors, voilà un homme qui pensait avoir tout connu, il avait les plus grands honneurs, et puis un jour il a tout perdu. Et il se pose la question, est-ce que ma vie a un sens maintenant, après le chemin de Damas? Et sa vie a été, je veux gagner Christ. Est-ce que tu veux gagner Christ? Est-ce que nous voulons gagner Christ? Encore, et grandir là-dedans. Alors, il avait une devise qu'il dira quelques versets plus loin. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Ne t'appuie pas sur tes forces. Ne considère pas ce que tu as perdu ou ce que tu as... Voilà, bien sûr, des fois on dit, voilà, j'ai fait cela, j'aurais aimé avoir de la reconnaissance, c'est normal. Mais si on s'attache trop à des détails comme ça, on ne pourra pas avancer. Le but de Dieu, c'est que nous puissions grandir, nous épanouir, que sur cette échelle, ce n'est plus du cœur, ce n'est plus nous qui montons, mais c'est que Christ puisse monter. Oh, Paul n'était pas un surhomme. Il n'était pas un tout-puissant, il ne pouvait pas tout faire. Il le savait. D'ailleurs, lui-même a dit que c'est quand il était faible qu'il comprenait la puissance de Dieu. Alors, je te laisse avec cette question. Es-tu réellement satisfait et comblé dans les domaines de ta vie? As-tu envie d'avancer encore plus avec Christ pour pouvoir le gagner davantage? Parce que Jésus est la seule personne qui pourra réellement combler ton cœur insatisfait. C'est la seule personne qui pourra réellement rassasier ta vie et ma vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Prenons un temps pour prier.